Deutsche Welle, magazine environnement.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre ici au Bourget, non loin de Paris, où se déroule la COP21, la conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Nous parlerons des négociations en cours, des négociations censées déboucher sur un accord contraignant sur les émissions des gaz à effet de serre. Kosiviti Assou au micro. Les négociations sur le climat évoluent, mais difficile de dire pour l'instant si elles allaient conduire le monde à une vraie politique de lutte contre les émissions des gaz à effet de serre. Une première étape a été franchie dans l'objectif d'un accord. Comme prévu, une ébauche d'accord sur le climat en vue d'un pacte universel sur le réchauffement de la planète. Ce test servira de base aux discussions des ministres de l'écologie et du développement durable dans une nouvelle phase de travail. Le test compte 48 pages et comporte encore de très nombreuses options que les politiques en discussion en ce moment devront trancher pour aboutir à l'adoption d'un pacte universel. Luc Nyakadia, ancien secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification, participe aux négociations.
J'ai pris connaissance du projet qui a été remis au président de la COP21, le ministre Fabius. On peut dire que la dynamique est porteuse d'avenir, c'est-à-dire que ce qu'il y a dedans, on peut en attendre au cours de cette seconde semaine avec la contribution, avec l'impulsion politique que les ministres vont apporter, que cela se passe mieux avec un document qui sera à la hauteur du défi climatique. Dans le document, moi je recherche un certain nombre de choses concernant les pays en développement, l'Afrique en particulier. L'adaptation. Quelles sont les ressources pour l'adaptation? Est-ce que ces ressources vont être amener au niveau local où on en a besoin pour effectivement construire l'adaptation et la résilience? Est-ce que la facilitation et le renforcement de capacités nécessaires sera en place? Ça, ce sont les éléments que je regarde de près. Ensuite aussi, je regarde si les ressources financières promises vont être transparentes en termes de mise à disposition ou si ça va être encore de la comptabilité créative qui va mettre ensemble le financement pour le développement avec les ressources additionnelles, parce que la Convention dit bien que les ressources-là doivent être additionnelles. Et enfin, je ne perds pas de vue le fait que si on veut construire l'adaptation et la résilience, il ne faut pas la construire uniquement avec des ressources qui viennent de l'extérieur. En réalité, la finance climat, nous aurions tort de la voir comme une finance qui vient d'ailleurs. La finance climat fait partie de la finance développement. On ne peut pas construire la résilience en comptant sur les autres. On construit la résilience éventuellement en utilisant les ressources que les autres nous apportent comme des ressources de catalysation. Maintenant, la première ressource qu'il faut mobiliser pour construire l'adaptation et la résilience, ce sont les hommes et les connaissances nécessaires.
Les hommes et les connaissances nécessaires. Est-ce que, apparemment, on dirait que vous êtes dans la même dynamique que le président sénégalais Macky Sall qui disait à l'ouverture qu'un accord sans le financement n'est pas un accord?
Oui, bien sûr. Un accord sans le financement adéquat serait un accord creux, un accord vide. Un accord avec un financement qui définit clairement les responsabilités, la partition, qui définit aussi les mécanismes de suivi d'évaluation, qui définit aussi les mécanismes de transparence qui vont assurer que chacun fait ce qu'il doit faire. Mais les contributions initiales qui ont été soumises ici ne sont pas suffisantes. Certains disent que ces contributions-là, si elles sont toutes réalisées à 100%, nous mettraient encore dans un scénario de type 3 degrés. Ce qui signifie que il faudra de nouvelles contributions, de nouveaux engagements en termes d'atténuation, mais qu'il faut aussi des engagements très forts en termes d'adaptation. On voit, on n'est pas encore à plus de degrés, et regardez ce qui se passe. Regardez l'accélération des sécheresses en Afrique. Les sécheresses qui étaient, les sécheresses sévères étaient avant des sécheresses décennales. On les avait tous les 10 ans. Maintenant, on les a tous les 3 ans et elles durent plus longtemps. Donc, il y a urgence à agir.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
À la COP21 au Bourget, il reste encore de nombreux points d'achoppement, les plus difficiles étant le financement de l'aide climatique aux pays du Sud et la répartition des efforts pour lutter contre le changement climatique entre développés, émergents et en développement. La réaction d'Aissatou Diouf de la coordination de la société civile africaine.
Un texte qui est beaucoup plus court, mais qui est encore très long, qui est beaucoup plus lisible pour les politiques. On a encore le meilleur et le pire dans le texte, ça veut dire tout ce qui peut faire un bon accord et tout ce qui peut faire un mauvais accord. Donc c'est une semaine cruciale qui commence aujourd'hui, donc une semaine très politique. Nous attendons des ministres, particulièrement des ministres des pays en développement, beaucoup d'engagement pour que nos priorités, les priorités des communautés en avant soient prises en compte et reflétées dans l'accord final. Nous savons que ce n'est pas encore gagné et sur beaucoup de sujets, il y a énormément de travail à faire. Si je prends l'exemple des questions sur les financements, donc il y a tout un travail à faire. Pour nous, rien n'est réglé sur cette question-là. Sur les questions de financement après 2020, on a vu que c'est moins compliqué pour les États, donc qui sont prêts plus ou moins à s'engager, à fournir des financements climat d'ici 2020. Donc pour l'après 2020, c'est très compliqué pour les pays développés parce qu'ils voudraient que les pays émergents puissent s'engager également à fournir des financements climat. Et pour nous, organisations de la société civile, nous disons que déjà sur l'objectif et l'engagement des 100 milliards, il s'agit essentiellement aux pays développés de fournir ces 100 milliards-là. Et maintenant, à partir de 2020, nous disons que si les émergents sont prêts à participer à l'effort collectif, pourquoi pas, mais on ne devrait pas en faire, une condition pour discuter des questions de financement pour l'après 2020 ici, parce que les pays développés se concentrent de plus en plus sur les émissions récentes et pas sur les émissions historiques. Et pour nous, ce n'est pas très sérieux à ce moment crucial des négociations. Donc ça, c'est un sujet donc, qui n'est pas réglé et que nous attendons énormément de nos leaders politiques. Sur la question de l'agriculture également et de la sécurité alimentaire, nous voyons que l'ensemble des options qui nous intéressent et qui peuvent préserver l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire sont encore entrecrochées, ça ne veut dire pas encore tranché.
Par exemple ?
Par exemple, on met food production, la production alimentaire, pour nous, qui ouvre la porte à l'agro-business dans nos pays en développement et qui ne va pas du tout assurer la sécurité alimentaire. Donc pour nous, nous voulons que cette mention disparaisse du texte de négociation et qu'on puisse le remplacer partout par la question de sécurité alimentaire. Pour nous, cela est important. Il faudrait également qu'on arrive à pousser davantage sur les questions d'adaptation, mais également des pertes et dommages. Et sur cette question-là, également, rien n'est tranché et que nous voulons qu'un mécanisme soit mis en place pour les questions de pertes et dommages. Donc ça va être une semaine très longue de tractations, de négociations. Et nous espérons que nos ministres qui sont présents ici vont recevoir des mandats forts des chefs d'État qui étaient là au début de cette conférence pour que l'accord qu'on aura au final puisse refléter les enjeux.
Est-ce que vous sentez cet engagement de la part des négociateurs africains ou bien des pays africains? Est-ce que vous sentez cette envie de faire bouger la situation pour que l'avenir soit préservé?
Ce dimanche, il y a eu la réunion, la conférence ministérielle des ministres africains de l'environnement. Donc, ils ont maintenu les priorités de l'Afrique, que ce soit sur la réduction du réchauffement à 1,5, donc relever le niveau de l'ambition. Sur cela, ils ont maintenu. Sur la question de financement également, mais on les attend beaucoup plus sur la question de financement parce que les négociateurs se focalisent sur le prêt 2020 et pas sur l'après 2020. Et nous, on dit que la planification qui intègre le changement climatique prend du temps. On le doit le faire en avance. Donc nous avons besoin de savoir à partir de 2020 qu'est-ce qu'on va avoir comme argent, sous quelle source, est-ce que ce sera de l'argent privé, est-ce que ce sera de l'argent public, est-ce que ça va être des dons, est-ce que ça va être des prêts. Donc nous avons besoin que l'accord de Paris puisse fixer les bases de financement pour l'après 2020 et on ne l'a pas encore. Et nous aimerons que les ministres africains et les négociateurs africains puissent pousser davantage sur cette question-là. Donc sur cette question, nous les attendrons. Sur les autres, je pense que la volonté politique est là et que hier à la réunion des ministres africains de l'environnement, nous avons eu écho que le président béninois a dit que ça n'avançait pas comme lui en tant que chef d'État le souhaitait et que si rien ne bouge d'ici ce jeudi, il va lui-même inviter d'autres chefs d'État africains à venir encore à Paris pour donner une nouvelle impulsion à ces négociations-là. Et pour nous, organisation de la société civile africaine, mieux vaut ne pas avoir un accord que d'avoir un accord à minima. Il faudrait que cet accord qu'on aura à Paris puisse poser les bases d'un monde plus solidaire, plus juste, pour l'ensemble des communautés, particulièrement pour les communautés les plus affectées.
Et est-ce que le pré-accord tient compte aussi des préoccupations des peuples autochtones ?
Les organisations de la société civile, en général, poussent pour que les questions de droits humains, de droits des populations autochtones, de l'égalité de genre soient reflétées dans l'accord. Nous savons que ce sont des questions très difficiles à régler en ce moment. Nous savons que des pays comme l'Arabie Saoudite ne veulent pas, par exemple, de l'égalité de genre dans le texte ou de l'inclusion de la question des droits humains. On voit que le groupe Afrique ne se positionne pas clairement également pour appuyer cette question des droits humains. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sait que le changement climatique impacte les droits humains, affecte davantage les femmes et il faudrait que ces questions-là soient reflétées et on ne les entend pas.
Vous venez de parler des points qui fâchent et quels sont les autres points sur lesquels vous êtes d'accord et qui, selon vous, font avancer les négociations?
Pour le moment, il faut savoir que pour nous, l'ensemble des points qui nous intéressent sont dans le texte, mais sous forme d'options.
Par exemple?
Par exemple, même si on parle de financement sur la notion des 100 milliards et des financements pour l'après 2020, c'est dans la partie financement, mais c'est encore entre parenthèses, entre crochets, ça veut dire que ce n'est pas encore tranché. Et nous, nous poussons pour que ça puisse rester au niveau du texte final. C'est pour cela que nous appelons nos ministres à pousser davantage pour qu'on puisse avoir cette question de financement, qu'on puisse pousser davantage pour avoir au moins 50% d'argent public sur les 100 milliards que nous allons recevoir pour l'adaptation, parce qu'il n'y a pas de bénéfice à faire dans l'adaptation. Donc tout cela, c'est pour cela qu'on dit que le meilleur et le pire est dans le texte, parce que toutes les options qui vont faire qu'on puisse avoir un accord très important pour les pays en développement sont dans ce texte-là, mais sont encore entre crochets. Donc il faudrait trancher et il faudrait que nos ministres soient très présents, il faudrait que nos négociateurs soient très présents et il faudrait également que nos ministres puissent avoir un mandat fort de nos chefs d'État pour ne pas faire des compromis qui seront à la fin à notre détriment.
Merci Aïssatou. La conférence de Paris sur le climat doit aboutir à un nouvel accord contraignant et universel applicable à tous les pays en vue de maintenir le réchauffement en deçà de 2 degrés Celsius. Merci de nous avoir suivis. Le magazine est enregistré au Bourget à Paris où se déroule la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat. Kossivitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.